Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, ce soir dans le Club des Idées, on s'intéresse à nos enfants. Comment les faire bouger, nos ados, et les décocher de leur écran? Une grande étude publiée aujourd'hui par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire lance l'alerte, l'ANSES, qui s'alarme des mauvaises habitudes prises par les jeunes. On en parle donc ce soir avec nos invités. Jean-François Toussaint, vous êtes directeur de l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport. Je voudrais vous entendre sur l'impact de ce cocktail sédentaire. Trop d'écran, pas assez d'activité physique. Est-ce que, on évoquait tout à l'heure le risque de surpoids, le risque d'obésité, les risques cardiovasculaires ou de diabète, ça suscite aussi des problèmes de sommeil. Quel est le temps à partir duquel il faut s'inquiéter pour son ado quand on est un parent responsable?
C'est toujours difficile d'avoir une valeur précise. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ces deux heures, ces repères sont importants, tels que signalait professeur Margaritis, mais c'est aussi le fait de pouvoir apporter des solutions. Ces solutions, on en a un certain nombre, ne serait-ce que sur les temps qui sont en dehors des temps bloqués d'éducation. Le temps de transport pour aller à l'école est un moment essentiel sur lequel on peut gagner énormément sur cette condition physique. La condition physique, c'est cette capacité qu'on va avoir, y compris de résister à toutes les contraintes.
Donc aller à l'école à pied, ça paraît rien du tout, mais ça a quand même son effet.
C'est essentiel, c'est essentiel. Et un grand nombre de villes ont mis en place, par exemple, des pédibus, des capacités d'organiser autour des écoles, des recueils à pied sur lesquels les enfants vont se retrouver les uns après les autres pour pouvoir faire ce moment de 20 minutes, 25 minutes à pied. Ben oui, c'est essentiel, c'est ce que faisaient, on en parlait hors antenne, ce que faisaient nos grands-parents à l'époque pour aller jusqu'à l'école. Ben oui, ce point-là leur a donné une qualité et une capacité de vie, y compris une espérance de vie. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir là va évidemment dégrader l'espérance de vie et l'espérance de vie en qualité pour ces générations qui sont confinées, immobilisées, sédentarisées.
Oui. Professeur Sylvie Torgman, vous êtes professeur de pédopsychiatrie à l'Université Rennes. Je voudrais vous entendre aussi sur l'impact, même question, de ce cocktail sédentaire. Parce que vous dites notamment, à cet âge-là, ça fait le lit des pathologies qu'on va retrouver à l'âge adulte, car ces mauvaises habitudes, on les retrouve ensuite chez les adultes avec toutes les complications de santé publique qu'on imagine.
Tout à fait, c'est-à-dire ça entraîne une vulnérabilité à certains troubles psychiatriques, comme les troubles anxieux, les troubles dépressifs, voire même certains troubles psychotiques, comme faciliter une entrée dans la schizophrénie. Mais pas par rapport à l'idée de mauvaises habitudes, c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit, c'est l'idée que quand on parle d'une surconsommation d'écran, on sous-entend que les préados, adolescents qui vont utiliser ces écrans vont se désynchroniser, vont se décaler avec des rythmes veille-sommeil qui peuvent être tout à fait inversés. Oui. Quand on parle d'une activité physique qui n'est pas suffisante, on parle aussi donc de facteurs d'environnement qui ne vont plus être présents et qui font partie de ce qu'on appelle les donneurs de temps, les Alzheimer, qui permettent de maintenir une bonne synchronisation de toutes les horloges biologiques. Et quand ces horloges biologiques sont désynchronisées, quand ces rythmes physiologiques ne sont pas respectés, avec des heures de lever et de coucher régulières, des heures de repas régulières, des heures également donc d'activité physique régulière, mais également de socialisation, de scolarisation, de scolarité, puisque là actuellement avec le déconfinement, certains jeunes n'ont pas repris le chemin de l'école, ce n'est pas suffisamment connu actuellement. Et bien il n'empêche, ce qui se passe, c'est que cette désynchronisation entraîne en effet
par
une vulnérabilité.
Par choix des parents ou par décrochage?
Par rapport à certains, par décrochage, d'autres situations où avec le reconfinement, il y a pu avoir une tolérance par rapport à un absentéisme scolaire, et où là, il y a tout un travail en effet donc à faire pour signifier que ces temps sont essentiels, c'est-à-dire cette synchronisation des rythmes biologiques permet de construire un peu, on va dire, un socle, une fondation qui va permettre qu'on puisse construire, quand on fait, nous, des prises en charge thérapeutiques. Si ce socle n'est pas présent, les prises en charge ne pourront pas tenir.
Alors, sur les écrans, précisément, professeur Irène Margaritis, vous êtes chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES. Vous publiez donc cette étude à laquelle on fait référence pour cette émission de ce soir. Et moi, j'ai retrouvé une étude de Santé publique France sortie il y a quelques temps, qui nous apprenait, par exemple, qu'un enfant qui regarde un écran le matin, avant d'aller à l'école, a trois fois plus de risques de développer des troubles du langage, car cela, disent les experts, épuise la concentration de l'enfant, qui est moins apte aux acquisitions, et donc une fois en classe, il n'est plus concentré du tout. C'est ça aussi le risque avec les écrans. Il y a des temps d'écran qui sont plus propices à déstabiliser l'enfant que d'autres.
Alors, il y a des temps d'écran, on revient aussi sur la question des rythmes biologiques, c'est-à-dire qu'il y a un temps pendant lequel on peut utiliser un écran avec moins de risques, On ne va pas entrer dans la question de la lumière bleue et la question de l'exposition à certains spectres qui vont avoir des effets sur la synchronisation. Mais de toute évidence, la question du contenu peut aussi se poser, c'est-à-dire être exposé à un certain contenu avant d'aller en classe. Enfin, vous imaginez, ça veut dire qu'il s'est levé à quelle heure ? Et au lieu d'avoir une activité ou bien de prendre ce temps supplémentaire pour marcher ou aller en classe en vélo, il va l'utiliser en étant sédentaire, c'est-à-dire qu'il ne se met pas en route le matin physiquement, il fait autre chose. Et très probablement, ça présente, là aussi, c'est absolument pas propice à la mise en route à la fois psychologique, intellectuelle.
Quelle est la bonne recommandation sur le temps d'écran pour un ado entre 11, 15 ans, 17 ans ? C'est quoi voilà, quand on est parent, c'est vrai qu'on est un peu bouffé par les écrans qui sont devenus une espèce d'obsession. Alors, il y a les parents qui sont rigoureux, puis d'autres qui le sont moins parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont moins là. Mais c'est quoi le temps d'écran raisonnable pour un enfant ? Est-ce que ça se compte en jours ou en semaines ?
Il y a des recommandations pour les plus jeunes, sur lesquelles, là, on sait qu'en dessous de 3 ans, entre 3 et 6 ans, les sociétés françaises de pédiatrie ont mis, par exemple, un certain nombre de valeurs, absence, avant 3 ans, et puis entre 3... y compris d'ailleurs sur la qualité des programmes, évidemment. Mais ce sont des points lesquels...
Oui. C'est important ce que vous dites, Jean-François Toussaint, parce que, évidemment, les programmes n'ont pas tous la même valeur. Mais j'ai été étonné de voir que, par exemple, Dora l'exploratrice permettait aux enfants d'apprendre du vocabulaire supplémentaire, alors qu'il y a d'autres programmes qui sont plutôt à contre-courant, c'est-à-dire un peu idiots et qui abrutissent les enfants, mais il y a quand même des dessins animés ou des programmes qui peuvent être enrichissants pour leur apprentissage.
Et toute la question dans ce contexte va effectivement voir comment cette déstabilisation se fait dans le cadre actuel. On parle non seulement du confinement, on parle de la sédentarité. On parle aussi sur la question de l'acquisition du langage. Pour les plus jeunes, toute la question du masque par les professeurs. Oui. Et celle-là n'est pas résolue. Donc ça s'ajoute là aussi. Et ce fait d'avoir une inactivité ne permet pas... Et lorsqu'on va jusqu'aux grands adolescents, jusqu'à l'université par exemple, on voit bien que ce temps-là devient des valeurs qui se chiffrent en plus d'une dizaine d'heures par jour, sur lesquelles on demande que l'ensemble de l'enseignement soit fait à 100% en distanciel, donc par écran, auquel s'ajoutent les réseaux sociaux le soir, la continuité d'un certain nombre de... Et pour autant, on voit bien, là c'est le cas avec 25 ans de recul dans cet enseignement-là, on voit bien que les étudiants n'arrivent plus à capter ce qu'il est nécessaire, ce qu'il est simple de transmettre dans l'acquisition en direct. Et le fait, à ce moment-là, d'avoir et la sédentarité, et la distance, et la complexité de l'ensemble, les fait perdre progressivement le lien qui était essentiel à leurs acquisitions.
Il y a un auteur qui s'appelle Michel Desmurger qui avait fait sensation avec un livre qui s'appelait « Les dangers des écrans pour nos enfants, la fabrique du crétin digital ». Vous êtes d'accord avec ça, professeur Irène Margaritis ? C'est une fabrique à crétins, les écrans, quand ils sont surutilisés ?
Alors moi, je n'ai pas d'éléments pour juger de ça. Ce qu'on juge là, c'est surtout la question de la façon dont on bloque déjà physiquement l'enfant, c'est-à-dire finalement, on le fixe.
Parce que c'est ça, en comment fait, les deux sont liés, c'est ce que vous dites dans
aussi,
l'étude.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu, ce n'est pas une tête et un corps de façon dissociée. C'est-à-dire que ce qui va permettre à un moment donné de se concentrer, d'être performant aussi à l'école, intellectuellement, c'est le fait de bouger aussi avec son corps. Ça paraît désuet de dire un esprit sain dans un corps sain, mais c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fixez physiquement, et ce que disait le professeur Jean-François Toussaint est tout à fait juste, c'est-à-dire nous, on le vit en enseignement. Quand on démarre un enseignement, on sait que ça va durer 2 heures avec les étudiants à travers un écran. On sent qu'ils sont là en train de trépigner, que la concentration n'est plus présente parce qu'ils sont physiquement figés. Comment est-ce qu'on peut penser en étant physiquement figé ? C'est très difficile et c'est absolument pas naturel. Donc on se place dans des situations qui ne sont pas naturelles. Oui. La question n'est pas de savoir combien de temps on peut ou on ne peut pas. À un moment donné, on voit très bien que quand on est fixé de cette façon-là, ça ne peut plus fonctionner, tout simplement.
Alors, réaction de professeur Sylvie Torgeman, et puis par effet d'extension, je vous pose aussi la question suivante. Les parents, et on imagine qu'ils ont un rôle essentiel à jouer dans cette affaire. Est-ce que nous aussi, nous avons pris une mauvaise habitude et les ados et les enfants que nous avons sont un peu en miroir de ce que nous sommes aussi ?
Alors, je rebondis juste sur ce que je viens d'entendre qui moi, me paraît essentiel, ouais. C'est-à-dire que le mouvement physique permet d'entraîner une mobilisation psychique. C'est-à-dire que le mouvement physique entraîne un mouvement aussi psychologique, un processus de pensée. Et c'est essentiel pour que ce soit les enfants, les préadolescents ou les adolescents, qu'il y ait un accès à plusieurs lieux. Qui dit plusieurs lieux dit qu'il va y avoir des identités différentes qui vont être associées, qu'un jeune qui peut être déprimé à la maison peut se montrer tout à fait différemment à l'extérieur, dans différents lieux. Donc c'est important qu'il n'y ait pas que le lieu scolaire et le lieu du domicile, ce qui veut dire que quand tout se passe sur un écran, et en plus qui dit écran dit finalement donc au domicile, là on est en train de se centrer sur un seul lieu qui est quand même très compliqué par rapport en effet à ces processus de pensée qui ont besoin qu'il y ait un certain mouvement physique.
Il y a un élément troublant aussi dans l'étude, c'est les comportements qui sont renforcés par les inégalités sociales. On y apprend par exemple que les enfants et les ados de familles à faible revenu ou faible niveau d'études sont les plus touchés par des niveaux de sédentarité élevé. Comment est-ce qu'on l'explique, ça, professeur ?
C'est très probablement multifactoriel, c'est-à-dire que les lieux de résidence ne sont pas les mêmes, l'accessibilité aux installations sportives n'est pas la même, la possibilité de s'inscrire dans un club n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est un contexte global qui va faire que le sentiment d'insécurité aussi, on le voit pour les filles notamment, c'est-à-dire qu'on sait que souvent les parents sont plus réticents à voir sortir les filles adolescentes parce qu'il y a un sentiment d'insécurité à l'extérieur. Il y a énormément de facteurs qui vont jouer et pour arriver à ce constat-là, qui est celui de l'inégalité sociale face à la fois au temps de sédentarité, à la consommation d'écran, parce que c'est une consommation finalement qui ne coûte pas.
Oui.
Et à la possibilité d'avoir une activité physique. Il y a aussi la question de la culture, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'on valorise ou pas la culture physique, au sens propre du terme, le mouvement humain, là aussi, et puis l'inégalité entre les filles et les garçons, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas du tout de la même façon une fille qui bouge et qui s'agite et un garçon, une fille qui joue au foot dans la cour de récré, c'est un garçon manqué.
Oui, encore un problème. Vous trouvez, encore,
ah oui, bien
encore
sûr,
aujourd'hui
bien sûr.
Encore aujourd'hui.
Et des études qui montrent aussi comment les garçons occupent le terrain d'une certaine façon,
oui.
Et comment l'espace physique...
public est fait pour les garçons que les filles.
Et puis ça saute, c'est auto-entretenu.
Comment est-ce qu'on fait bouger alors nos ados, pour tous les parents qui pourraient nous écouter, qui seraient dans ce cas de figure-là, comment est-ce qu'on peut inverser les choses, les déscotcher des écrans, les engager à faire un peu plus d'activité physique, que ce soit la promenade avec les copains, le match de foot.
En période de confinement, la première solution, c'est le déconfinement.
Oui.
Avant tout.
Mais une
ce
fois
qui
qu'on
a aggravé, ce une... qui a aggravé la situation actuellement est lié à cela.
Mais
et ces quantités-là.
Les chiffres qui ont été faits avant le confinement,
elles
sont
n'ont fait
déjà terribles.
Que s'aggraver. Alors, et ça fait plus de 15 ans. Plus de 20 ans maintenant qu'un grand nombre de spécialistes alertent jusqu'à l'OMS, et y compris dans la Commission européenne, y compris les quantités d'études, les quantités de tendances qui ont essayé de remettre ça, on voyait que c'était déjà en stagnation, en très grande difficulté depuis 20 ans, et en particulier depuis l'expansion de ces écrans. Là maintenant, ça s'est encore aggravé. Donc le premier point, vraiment, c'est de remettre en mouvement une société qui s'est immobilisée, qui s'est totalement figée. Donc déconfiner, c'est le premier point. Réouvrir les salles de sport, réouvrir la possibilité pour tous de pouvoir le faire,
vous
y compris...
Le président de la République a dit qu'il reprendrait les activités sportives pour les enfants à partir
de
début décembre.
C'est essentiel. Ce sont des points sur lesquels les enfants, les adolescents,
mais
les adultes
parents,
et les seniors aussi.
Pour les parents, professeur Tortman.
Alors, pour les parents, puisque là, quand même, on vit une période de reconfinement, et c'était vrai aussi pour la précédente période de confinement, il y a quand même des règles de base... comme par exemple par rapport donc aux écrans, en effet, de voir aussi quel est le seuil de tolérance donc d'un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant qui commence à être envahi et qui n'arrive plus à se détacher de son écran, c'est pas la même chose qu'un enfant qui va aller chercher des informations. Donc il n'y a pas uniquement le nombre d'heures, mais il y a comment les écrans sont utilisés, à quel moment ils sont utilisés, quand c'est une heure avant le coucher, quand le jeune est censé se coucher et dormir et qui continue à être avec son téléphone portable. Là, par rapport à votre question, il en va aussi de la responsabilité des parents
On pique le mobile et on le cache et on le rend le lendemain matin, par exemple.
Et ben, il y a en tout cas des limites donc à poser très clairement. Ouais. Et pour l'avoir vécu, puisqu'on a des unités d'hospitalisation d'adolescents et on a instauré comme règle de prendre en effet donc les portables donc de ces jeunes, et c'était des adolescents de 16 à 18 ans, eh bien, ils arrivent à se... à se détacher de leur portable beaucoup plus facilement qu'on ne peut le penser. On leur rend bien évidemment le week-end quand ils rentrent chez, dans leur famille. Et donc ça, c'est important parce que c'était aussi une crainte des soignants en pensant que ça, c'était, on allait atteindre, on touchait finalement à quelque chose qui est essentiel par rapport aux adolescents. Oui. En définitive, ils peuvent tout à fait se détacher plus facilement qu'on ne le pense. Donc il y a réellement une responsabilité.
Et vous retrouvez, professeur, le phénomène addictif, c'est-à-dire que c'est comme une désintoxication d'une certaine manière avec le portable. Passer quelques jours, une fois qu'on l'a retiré, ça y est, on a l'espace libéré, on a l'esprit libéré, on passe à autre chose.
C'est pas aussi clair que ça, mais il y a en effet toute une problématique addictive avec des jeunes qui ne peuvent pas, qui sont d'ailleurs déscolarisés et qu'on ne peut d'ailleurs atteindre en équipe mobile qu'en allant au domicile et en utilisant nous-mêmes des écrans, c'est-à-dire qu'on va les aborder en utilisant des jeux vidéo pour pouvoir utiliser le même canal de communication qu'eux et petit à petit, on va justement les faire bouger, les faire sortir sur la maison des adolescents en utilisant aussi des jeux vidéo, donc comme un peu un fil rouge, un fil conducteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça relève en effet de la responsabilité des parents et de l'autorité parentale de pouvoir déjà, prendre conscience de la gravité quand un jeune est désynchronisé au niveau de ses rythmes veille-sommeil, exemple. Et deuxièmement, qu'il peut y avoir ces quelques mesures, et là on peut les accompagner, parce que ça ne va pas de soi pour des parents, en effet, de rentrer en conflit de façon quotidienne avec, avec leur adolescent. Et là, il peut y avoir un accompagnement qu'on peut apporter par rapport à ça. Quant aux autres règles, on en a déjà parlé, ce sont des règles très, même en période de confinement, très basiques, des heures de lever, de coucher, des heures de repas, et peut-être que d'ores et déjà, si les familles elles-mêmes instauraient des heures de repas, on peut se dire que ça ne touche pas uniquement le jeune et l'adolescent, ça touche l'ensemble de la famille. Là, il y a aussi un rythme qui est un rythme finalement familial à prendre.
Retrouver une forme de temps.
C'est un cadre. C'est un cadre de fonctionnement familial et ce cadre, il peut tout à fait être posé par les parents et je pense qu'il en va aussi de leur rôle de parents par rapport aux risques sur le plan tant de la santé physique que psychique.
Et le sommeil est très important aussi. Vous dites entre 8h30 et 9h30 de sommeil pour être bien réglé pour un enfant, c'est la base et c'est le minimum. Professeur Irène Margaritis, peut-être votre avis aussi, les bons conseils pour les parents qui nous écoutent.
L'exemplarité aussi.
Oui.
C'est-à-dire que c'est
que
très
les parents
difficile.
Soient exemplaires.
Bah oui, c'est-à-dire que de raconter une histoire à un enfant et ne pas la vivre, c'est un peu curieux.
Oui. Arrête donc, ton téléphone et puis je suis le nez sur les réseaux sociaux.
Ça paraît évident,
ça marche pas bien.
Voilà. C'est aussi en même temps. L'idée, c'est de s'installer aussi dans une certaine culture qui va permettre de considérer le mouvement humain comme étant important. C'est-à-dire que il faut voir aussi culturellement, on n'y est peut-être pas tout à fait. On ne donne peut-être pas la place à l'activité physique qui est vue comme une espèce de parenthèse dans la vie, alors que c'est aussi la vie, c'est expérimenter le monde sensible, c'est ce qui va permettre de se confronter, d'avoir des sensations. Et puis, peut-être à un moment donné, présenter ça comme... On peut prendre goût à l'activité physique. Le problème, c'est qu'à force de se déconditionner, se remettre à l'activité physique est quelque chose de stressant, qui peut être vécu comme un stress psychologique et physiologique par l'enfant.
La peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur d'être jugé.
Aussi, mais le fait que physiquement, c'est plus difficile quand on est resté sans rien faire. Il y a vraiment un déconditionnement. Donc, essayer de limiter ça et encore une fois, essayer de faire en sorte que les parents tirent leur enfant de là, peut-être pas par l'injonction, mais par l'exemple, en proposant des activités, en disant bah, « tiens, on sort ». Et puis utiliser son ticket finalement, parce qu'on est confiné, mais on a le droit de marcher dans la rue, ne serait-ce que ça.
Bien.
Et beaucoup d'adolescents ne le font pas.
Avis à tous les parents qui nous écoutent pour ces quelques conseils. Merci infiniment à tous les trois d'avoir partagé avec nous ce constat et ces solutions. En tout cas, si tant est qu'il y en ait, mais j'ai l'impression qu'on a donné des clés de solution pour faire bouger les jeunes et un peu les déscotcher de leurs écrans. 19h49, dans un instant, les archives d'Europe Soir. Tout autre chose, un hommage ce soir, Freddie Mercury. À tout de suite.